C'est pour quoi, Radio Campus, c'est ça?
Non, pour l'instant, c'est juste pour faire des essais.
Ils nous ont prêté un enregistreur.
Qui c'est qui vous a prêté?
Radio Campus. Et on fait des tests. Avant, on cherche des... L'idée, c'est de faire une émission, mais il faut qu'on s'exerce un peu.
Un, dos, tres, cuatro.
Y a-t-il une vie après la radio? Les nouvelles du GEM, l'Eurocoin.
Renverser un verre d'eau ou de vin sur la table ou sur quelqu'un.
Marcher dans une flaque et éclabousser un voisin.
Faire tomber son téléphone avec un énorme fracas dans un lieu silencieux.
Ouvrir une porte, pousser en tirant et réessayer.
Dire au revoir, puis partir dans la même direction que la personne.
Appeler quelqu'un par le mauvais prénom et le répéter. Envoyer un message à la mauvaise personne ou dans le mauvais groupe.
Agiter la main pour saluer quelqu'un qui ne vous saluait pas du tout.
Comme vous l'aurez compris, après cette liste, c'est que nous allons aborder la place de la maladresse, des erreurs dans nos vies. Et dans un monde où qui peut parfois chercher à tout prix la perfection. Pour en parler, nous serons accompagnés de Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
De Jean-Fabien.
Bonjour.
De Rémi.
Salut.
Et de moi-même, Cécile.
Pour nous lancer, nous sommes dans poser la question, est-ce que certaines erreurs ou maladresses dans nos vies nous ont finalement été bénéfiques, et on s'est dit qu'on allait d'abord demander à des inconnus dans la rue qu'est-ce qu'ils en pensaient. C'est le moment du micro-trottoir. Y a-t-il une vie après la radio?
Est-ce que vous avez commis une erreur dans votre vie qui vous a été profitable?
Non, je ne vois pas comme ça. Non, je n'ai pas d'idée qui me vient.
Par exemple?
C'est une question qui n'est pas facile. Hein.
C'est vrai.
Moi, quand j'étais petit, j'étais chapardeur, adolescent. Et finalement, dans ma vie, ça m'a été profitable, cet apprentissage, on peut dire. Parce que ça m'a sauvé la vie. Sinon, je serais mort de faim, certaines fois.
Et je me rappelle d'une fois, c'était mon premier vrai boulot. Et je bossais sur un projet avec des fonds européens, ça durait 2 ans. Et du coup, au bout de 2 ans, on fait une réunion avec tous les partenaires impliqués dans l'idée de mettre fin au projet. Et puis du coup, moi, j'avais plus de boulot. Et il y avait une dame qui participait à ce truc pour une des assos qui était présente et qui m'aimait bien. Et je sais pas comment elle a fait, mais en sortant de la réunion, j'étais en CDI. Et sans projet. Et du coup, là, voilà, je me dis pour moi, là, il y a eu une erreur quelque part. C'est-à-dire qu'elle les a complètement roulés dans la farine. Et à un moment donné, moi, je n'avais rien demandé. Je pensais que c'était fini. Je me préparais dans ma tête à passer à autre chose. Et en sortant de là, ils m'ont proposé un CDI sans rien à faire, sans tâche associée, quoi, parce que le projet était fini. Et voilà. Du coup, je pense que là, pour moi, ça a été un tournant dans ma vie, parce que c'est ça qui fait que du coup, je suis resté dans le social. Sinon, je pense que je serais allé faire complètement autre chose ailleurs.
Alors, j'ai le souvenir d'une séance d'orchestre. Donc, j'étais violoniste à l'orchestre vers Lyon, dans un orchestre à cordes dirigé par une super femme violoniste. Et cette femme, elle était un peu forte. Elle était un peu forte, quoi. Et je me souviens qu'on parlait de nos costumes de scène de fin d'année. Et je ne sais pas à quel moment elle a parlé de elle, de sa tenue. Mais, donc j'étais grande ado, mais j'ai fait une réflexion dont je ne me suis absolument pas rendu compte et qui pour moi n'était pas ni méchante ni jugeante sur son physique à elle. Mais elle l'a très mal pris. Et elle m'a donc fait cette réponse en me disant « Violaine, toi, tu dis pas souvent des choses, mais par contre, quand tu dis, des fois, tu peux être blessante. » Et j'avais pas du tout, moi, saisi la portée de mes mots. Et ça m'est vachement resté en tête. C'est la première fois où je me suis dit « Oula, il faut faire très, très attention de comment on adresse les choses sur le physique aux gens. » Parce que ça peut, on ne sait pas où ça tape et on doit faire très gaffe à ça parce que sans le savoir, j'ai été blessante et je m'en suis souvenue jusqu'à maintenant.
Il me semble que oui, une fois j'ai inventé une recette où je me suis trompé de produits, d'ingrédients et finalement ça a fait quelque chose de très sympathique.
Dans mon travail tout le temps, parce que je cherche les erreurs dans des logiciels qui servent à faire du son. Et pour moi, les erreurs, c'est positif. Je suis content quand ça crache.
Un jour, je cherchais du travail. Il y a un copain qui m'a dit « Va dans telle entreprise, ils embauchent. » Et je me suis trompé d'entreprise et j'ai eu un CDI.
Donc, moi, j'ai une petite histoire à raconter. C'était pendant un voyage. On a fait l'erreur où on a laissé nos sacs au mauvais endroit. Et quand on est revenu, on n'avait plus de sacs. Et du coup, ça a été une bonne expérience parce qu'on était dans un petit village en Mongolie. Et en fait, on a passé 2 jours avec le village à chercher nos sacs de partout. Et en fait, on a rencontré un chaman qui nous a raconté un peu où étaient réparties nos affaires. Ça nous a donné un peu une direction, etc. Et ça a été un peu le thème de cette étape-là, d'essayer de retrouver les sacs et tout. Et c'était vraiment trop bien. Et à la fin, en fait, je pense que la personne qui nous avait pris nos sacs a un peu flippé parce que tout le village un peu savait cette histoire-là. Et des sacs sont revenus là où on était sans qu'on sache qui les avait pris et tout ça. Mais pour nous, c'était des bons souvenirs de voyage.
Alors oui, dehors, on en a commis plein. Par exemple, une fois, j'aimais faire les magasins, mais juste avant, de vêtements. Mais juste avant, j'avais acheté une bouteille de limonade. Je suis rentré dans le magasin, c'était génial. Mais la bouteille de limonade, elle est tombée par terre, je sais pas pourquoi. Donc on m'a vite demandé de sortir du magasin, parce que ça éclaboussait tous les vêtements. Et je me suis dit, il faudra que je commette pas une erreur de cette taille une nouvelle fois.
Se perdre, oui, ça a dû m'arriver de trouver des super champignons dans les bois en me plantant de chemin, et ça, c'était plutôt positif. C'est la seule erreur, entre guillemets, une erreur d'orientation peut t'amener à des jolies découvertes dans les bois.
Et on se construit avec ça, je pense, et on essaye de ne pas reproduire et de devenir quelqu'un de meilleur. Et qu'il faut se rater pour mieux repartir.
Alors, j'ai un problème dans la vie, c'est que je n'ai pas de filtre. Voilà, donc du coup, je me rends pas compte quand je peux choquer les gens. Et du coup, un jour, il était peut-être 4 heures du mat, puis ça faisait à peu près 2 semaines que je tournais autour d'une personne. Et du coup, j'ai envoyé un message très très franc pour dire « Oui, non mais moi, j'arrive là, si tu veux de moi, je viens tout de suite. » Et la personne en face a été un petit peu... mal à l'aise, peut-être, en tout cas interloqué. Et j'ai eu un beau silence de texto pendant un bon moment. Puis un « mais pour de vrai ?» Bon, ben voilà, on est 10 ans plus tard et c'est mon époux. Ça, c'est plutôt pas mal comme maladresse.
Au revoir, merci.
Merci, au revoir.
Alors voilà, plein de jolis témoignages. De personnes qui nous racontent que finalement la maladresse, contrairement peut-être à ce qui peut nous venir en premier lieu dans notre tête, c'est pas si négatif que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qu'on vient d'écouter?
Je sais que
rapproche-toi du micro, JC, vas-y.
Je sais que beaucoup d'inventions proviennent de maladresse ou d'accidents dans la vie, de petits détails. Voilà. Je pense, par exemple, le monsieur qui a inventé le four micro-ondes, il avait un bonbon dans sa poche, il s'occupait de radar. Voilà. C'est un scientifique, un technicien dans les radars.
Ok. Moi, ça me fait penser au vaccin, je crois, où il me semble que c'est pareil, ça a été. Je ne connais pas l'histoire précisément, mais je crois que ça a été aussi inventé. Enfin, certains vaccins ont été inventés comme ça par maladresse ou par erreur. Cécile, je croyais que je t'ai coupé l'herbe sous le pied, non, tu voulais pas.
J'ai perdu.
Il n'y a pas de souci. Jean-Fabien, t'en penses quoi, toi? Est-ce que les maladresses, finalement, ça peut être quelque chose qui nous apporte quelque chose finalement de positif dans nos vies?
De pas, comment dire, ça reproduire les mêmes schémas, je pense. Surtout avec des personnes qu'il y a peut-être certaines personnes qui peuvent vous en vouloir d'avoir commis certaines maladresses et que, en fait, donc du coup, c'est vrai que, après, c'est vrai qu'on est, comment dire ça? C'est vrai qu'on est mal à l'aise, quoi, en fait, du coup, quoi. On n'est pas toujours très, très à l'aise avec ça. Et que, bon, voilà, quoi, c'est vrai que, voilà, quoi. Et que moi, j'ai commis un peu des maladresses par rapport à certaines personnes que j'aurais pas dû connaître. Et que, en fait, je m'en suis voulu. Et que, bon, la personne m'en a voulu après pendant je sais pas combien de temps. Et voilà. Pardon, excusez-moi.
Non, mais pas de souci. Et toi, Cécile, est-ce que tu as une anecdote dans ta vie, peut-être, de quelque chose qui, effectivement, tu t'es dit après coup, bon, bah, en fait, finalement, ça m'a amené sur un autre chemin, mais.
Oui, parce que j'avais rencontré un professionnel dans le milieu médico-social. Et lors d'une conférence, on préparait le matériel, etc., cet homme, il discute avec un jeune homme qui a un appareil photo et qui suit les préparations. Et en fait, moi, j'ai cru que c'était son fils. Alors, je lui ai posé simplement la question par intérêt, voilà, sans arrière-pensée. Et en fait, il s'est avéré que ce jeune homme était son compagnon. Du coup, je suis restée un peu silencieuse pendant un moment. Mais voilà, par la suite, en fait, c'est quelqu'un qui a tout à fait compris que c'était une maladresse et que ça ne portait pas à conséquence. Donc, ça m'a permis de tisser un lien important avec lui.
Je vous propose qu'on écoute un tout petit extrait d'un film et on se retrouve juste après pour continuer notre discussion.
Hector te plaît ? Mais t'as pas peur qu'il soit homosexuel ou bien qu'il ait une copine ou même qu'il soit impuissant ?
Non. Quand Charlotte me l'a présenté au musée, je l'ai tout de suite trouvé très sexy parce qu'il était... Il était assez maladroit. Je trouve que c'est assez sexy. Bon. C'est assez sexy d'être maladroit.
Allez. Alors, est-ce que c'est sexy d'être maladroit?
Je sais pas. Franchement, j'en sais rien.
Est-ce que la maladresse, finalement, est-ce que le fait de ne pas être si parfait que ça, finalement, est-ce que ça n'a pas du charme?
Peut-être.
Je crois que si. Puis ça dénote un caractère, justement, qui ne court pas après les apparences. Et qui accepte elle-même de commettre des erreurs. Et ça, je trouve ça peut-être pas sexy, mais en tout cas, je trouve ça attendrissant.
Moi, je pense à un autre film. D'un grand comique dont on va parler plus tard, qui se trompe de chaussures, qui met des chaussures non appareillées, qui arrivent à l'aéroport et qui, longtemps après, à la suite du film, se retrouvent dans le même lit que Mireille d'Arc.
Tu parlerais pas de Pierre Richard par hasard?
Exactement. On va maintenant écouter la lecture d'un texte écrit par Jérôme durant l'atelier d'écriture autour d'une maladresse avec un ami.
La maladresse.
Une nouvelle notification de Raphaël. Je la lirai plus tard. De l'autre côté du téléphone, Raphaël, passablement éméché, un sourire franc et solaire aux lèvres, attend que son pote Arnaud réponde. Une minute passe. Deux minutes. Au point qu'il finit par se dire « Je l'appelle, même si ce n'est pas le moment pour lui. Il faut que je lui en parle, putain !» La sonnerie retentit, sur le GSM d'Arnaud. Il décroche.
Quoi ? Oui ? Oui ? Quoi ? Il est quand même 5 heures du mat. Ça peut pas attendre ?
Bah non, comme tu as pu le voir sur mon texto.
J'ai pas reçu de texto, Ralph. T'as oublié d'appuyer sur envoyer ? Bon, maintenant que tu m'as réveillé, vas-y, raconte.
J'ai rencontré quelqu'un. On s'est parlé pendant des heures. On faisait partie des derniers réveillés, les aficionados du « je ne me coucherai pas ». On discutait de questions comme « si tu devais inventer un mot, un verbe ou un adjectif, ce serait lequel et pourquoi ?» avec, en fil rouge, des blagues. Tout ça est très brumeux, très confus. La seule chose qui persiste dans ma tête, c'est un sentiment de joie et un désir envers sa clavicule. Enfin bon, regarde le texto.
J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi. Disons entrecoupé de silence qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. Ça ira pas plus loin, tu vois. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Espace, si j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison.
Vous êtes maladroit, vous, dans la vie, Pierre-Richard ?
Non, je suis plutôt très adroit. Pour jouer les maladroits au cinéma, il faut être très adroit. Parce que si je veux faire tomber un verre par maladresse dans un film, il faut avoir le sens, la distance, la position géographique et la précision de votre geste. Parce que si vous devez regarder le verre pour le faire tomber, du coup, vous ratez votre maladresse. Il y a des maladresses qui sont, comment dirais-je, qui sont des actes manqués, ou plutôt qui ont l'air d'être, et puis qui veulent bien dire ce que ça veut dire. En général, les Mars Brothers, Laurel et Hardy sont des destructeurs. Et moi, les films que j'ai fait, en tout cas les premiers, c'était des films où j'avais l'air d'être les grands yeux bleus ahuris, innocent. Et en fait, j'étais une petite grenade que j'envoyais dans une société que je trouve absurde et de plus en plus ailleurs et consternante.
Nous sommes de retour sur Radio Campus Grenoble. L'émission Y a-t-il une vie après la radio ?
Et aujourd'hui, on parle de la place de la maladresse, de nos erreurs dans nos vies. On a écouté Louise Attaque avec le titre « Ton invitation » et c'est évidemment le grand Pierre Richard que l'on vient d'entendre pour parler de la difficulté de jouer la maladresse. Pierre Richard, c'est une des personnes à laquelle nous avons tout de suite pensé lorsque nous avons parlé de maladresse. Il y a évidemment d'autres artistes, films ou personnages de livres qui viennent à l'esprit.
Alors, qui nous vient à l'esprit quand on a commencé à parler de la maladresse? J'y sais, toi, tu nous as parlé directement aussi assez vite de quelqu'un, d'un personnage de bande dessinée.
Oui, oui, effectivement. Dans ma famille, on me surnomme, on m'a dit, ton idole, Gaston Lagaffe, et on m'a offert à un anniversaire, Gaston Lagaffe en latex, avec une taille de 10-15 cm de taille. Je t'avouais que si on m'a dit simplement Gaston Lagaffe, ton idole, c'est parce que qui est donc tiré du 9e art la BD, c'est que justement j'avais déjà un surnom déjà très bien, qui vient aussi du 9e art à la BD. On m'a surnommé depuis longtemps dans ma famille le Migou ou le Yeti, qui vient d'un album de Tintin. Voilà.
Et Gaston, c'est pourquoi toi t'aimais Gaston quand t'étais petit?
Il y a beaucoup de BD que j'ai appris à connaître avant même l'âge de 10 ans. Et Gaston Lagaffe en faisait partie.
Et toi, Jean-Fabien, est-ce que tu penses à un personnage ou un film quand on parle de la maladresse? Une œuvre?
Non, pas spécialement. Mais bon, après, peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas creusé plus le sujet que ça. Voilà.
Et toi, Cécile?
Moi, j'ai pensé à Jamel Debbouze parce que il a fait de ses mauvais emploi de certains mots, il en a fait une spécialité et c'était très drôle. Et je pense que, on en a un spécimen au GEM qui parle et qui dit il dit l'inverse de ce qu'il pense souvent, de ce qu'il essaye de dire. Ça crée des quiproquos assez rigolos.
Ouais. Et c'est vrai que Jamel, il a fait aussi une force, parce que si mes souvenirs sont bons, il est handicapé, je crois qu'il a un bras. Jamel Debbouze, il a un bras qui est handicapé. Et pareil, je crois qu'il a vraiment fait aussi de cet handicap physique, finalement, de tout ce que ça peut amener de maladresse, justement, d'avoir un bras en moins. Il en a fait aussi une force, parce que physiquement aussi sur scène, il a un truc quand même où il est tout le temps en train de se déplacer. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est... En fait, quand on regarde dans la littérature ou le cinéma ou la bande dessinée, il y a quand même beaucoup, de personnages qui sont maladroits. Et finalement, moi, ça me fait quand même dire que le public aime ça. D'après vous, pourquoi est-ce que finalement on aime regarder des gens maladroits ou lire des gens maladroits?
Pour moi, c'est parce que c'est rassurant.
Pourquoi?
C'est rassurant de voir des personnes qui ne se donnent pas l'apparence d'être parfaits. Et voilà, ils sont humains, tout simplement.
J'abonde dans ce sens-là. Ouais, on a besoin de personnes qui ne sont pas parfaites.
Puisqu'on en parle, on va écouter justement quelque chose sur la question de la perfection, de l'humain. On écoute un petit extrait et on se retrouve juste après.
Pourquoi l'erreur est-elle humaine ? Un proverbe célèbre dit que l'erreur est humaine, errare humanum est. Qu'est-ce donc une erreur et pourquoi est-elle au cœur de l'humain et même au cœur de la vie? L'erreur, c'est au fond une faute, par exemple épistémologique, un calcul qui tombe mal, une expérience qui infirme une théorie, c'est-à-dire un fait qui vient contredire une théorie préalable, mais justement dans la recherche de ce savoir général, dans la recherche d'une vérité générale ou dans la confirmation d'une vérité générale. Et donc une erreur est toujours prise dans la recherche d'une norme est toujours une contradiction dans quelque chose que l'on cherche à savoir ou à vérifier. C'est pourquoi l'erreur est si proche de l'essai, et même indissociable de l'essai, et c'est pourquoi on dit que la science expérimentale procède par essai et erreur. C'est pourquoi l'erreur est au cœur du vivant. Le grand philosophe de la vie, Georges Canguilhem, en a même fait l'essence du vivant, même dans le code génétique, qui semble en effet parfait. Voilà, les humains sont codés, l'ADN a été découvert au début des années 60. Eh bien, nous sommes donc langage, nous sommes des ordinateurs. Eh bien non, parce que le vivant fait des erreurs.
Alors, pas facile hein, quand même, fallait suivre. Moi, la question que je voulais vous poser aussi sur ce dicton, c'est est-ce qu'il n'y a que l'humain qui fait des erreurs ?
Non, ben, il a été prouvé, on l'a déjà vu des fois, que l'intelligence artificielle pouvait faire des erreurs parce qu'elle est mal informée. J'ai envie de parler d'ailleurs rapidement. Vous savez, il y avait un romancier qui s'appelait Isaac Asimov et qui a beaucoup utilisé les trois lois ou les deux trois lois de la robotique.
Est-ce que tu les as en tête?
Je ne les ai pas en tête.
Okay.
C'est un rédacteur en chef d'un magazine de littérature qui ou d'une maison d'édition qui lui a donné ça. Je crois qu'il s'appelle Edgar Burroughs, un truc comme ça, qui est le créateur de Tarzan. Et il en a fait des tas de romans.
Est-ce que, si tu veux, là, je viens de les avoir, là, les trois lois, est-ce que tu veux les lire?
Oui. Je vois que... Micro, merci. Sais. Merci de... Un robot ne peut pas... Ah, ouais, excusez-moi. Un robot ne peut porter... atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Voilà.
Merci, JC. Donc ça, c'est les trois lois dont tu nous parlais, là, d'Asimov, c'est ça?
Exactement. Je sais que c'est pas lui qui les a créées, et c'est pour ça que je parlais du créateur Tarzan, c'est lui qui les a créées. Voilà.
Donc l'erreur est humaine, l'erreur est aussi intelligence artificielle, l'erreur est aussi informatique, alors, finalement.
La question qui se pose, c'est que est-ce que l'IA est capable d'apprendre de ses erreurs, puisqu'elle apprend au fur et à mesure des contacts avec les humains.
Alors, moi qui suis un passionné d'échecs, l'IA est en train de faire des pouvoirs, permettre aux ordinateurs de faire des pouvoirs énormes aux échecs. Ils sont encore plus forts qu'avec une simple intelligence basée sur le calcul. Ils apprennent d'eux-mêmes leurs erreurs aux échecs.
Donc ça répond un peu à ta question, Cécile.
Oui, complètement.
C'est-à-dire qu'il y a effectivement, peut-être on en arrive aussi à ce qu'il y ait un peu comme un fonctionnement humain, c'est-à-dire que, comme disait d'ailleurs l'extrait, là, ça fonctionne par essai-erreur, comme nous on peut le faire. Finalement, aujourd'hui, les logiciels informatiques fonctionnent aussi par essai-erreur, quoi, et apprennent de leurs propres erreurs. Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que ça... Enfin, je sais que ces questions autour de l'intelligence artificielle, ça pose beaucoup de questions, on en parle beaucoup en ce moment.
En tout cas, les trois lois de la robotique font un peu peur quand même. Et le film,
oui.
2001, l'Odyssée de l'espace fait aussi peur.
Mais oui, c'est vrai que récemment j'ai commencé un peu à regarder quoi ce film, voilà. Je me mets aussi de Stanley Kubrick, et il montre bien comment ça a commencé l'humanité et tout, que les singes au départ et tout, qu'après qu'ils sont devenus des hommes et tout, voilà quoi. Du coup, ça montre bien ce truc là quoi. Donc, du coup, je suis en cours de film pour l'instant, quoi. Mmh. Donc, bon, voilà.
Moi, je crois que les personnes qui ont un esprit critique affûté passent leur temps à essayer de mettre en défaut les IA. Donc, ils les bombardent de questions. Et puis, ils orientent leurs questions pour que l'IA soit coincée et obligée de reconnaître, ben non, ce que j'ai dit, non,
c'est une erreur.
Je me suis trompée. Ouais. Et voilà, il y a des personnes qui passent leur temps à ça.
C'est devenu un hobby. Mmh. Au GEM, il y a beaucoup de personnes, vous voyez beaucoup de personnes qui utilisent ChatGPT, par exemple, ou enfin, voilà. Ouais.
Moi, je ne connais pas beaucoup, mais il y en a un qui fait ses propres logiciels d'échecs. Bon, ce n'est pas le fameux logiciel, mais il est bien placé, lui, pour en parler. Voilà. À la suite de tout ce qu'on a échangé, je pense que la maîtresse peut apporter des progrès, mais l'intelligence artificielle, elle, il faut s'en méfier.
Ben donc, je sais pas si je peux conclure. Donc, du coup, voilà quoi. Donc, pardon, excusez-moi, peut-être que je parle pas assez. Si tout le monde m'entend là ?
C'est bon.
Donc, eh bien, c'est le moment de conclure ce numéro. Y a-t-il une vie après la radio ? Merci à Cécile, Jean-Christophe, voilà. Et Rémi, voilà. À bientôt. Et donc, voilà. Au revoir.
Monsieur Marteau pour la radio de l'Enclume. Monsieur Marteau, est-ce que vous êtes là ? Monsieur Marteau, je vais passer au suivant. Bon, bah ok, je passe au suivant.
Bien plutôt, soigner tes tympans sur 90.8.
Ah, c'est une radio campus grenobloise.
Passe une radio campus grenobloise.